Le chapitre 12 de l'Évangile selon Jean renferme le dernier discours public du Christ, après lequel il se retira définitivement de la vie publique. Le texte nous dit que malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Dans ce discours, Jésus prononcera une prophétie à la portée immense. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ces paroles résonnent à travers 19 siècles d'histoire chrétienne. Mais au moment où Jésus les prononça, qui aurait supposé qu'elles se réaliseraient pleinement? Et de quelle manière? C'est ce que nous allons voir dans le courant de cette étude. Les Juifs avaient été fascinés par la personnalité de Jésus de Nazareth. Ils n'en restaient pas moins incrédules quant à ses déclarations et à ses affirmations. Après tout, il se trouvait en présence d'un homme sans instruction, ou presque, issu d'un vague village de Galilée. Il ne possédait rien, il n'avait aucun pouvoir politique. Il était entouré d'hommes plutôt insignifiants, quoique droits et sincères. Parmi ceux qui le critiquaient habituellement et qui avaient entendu cette nouvelle déclaration solennelle que nous venons de citer, combien ne l'ont pas jugé prétentieux, présomptueux et insensé? Peu de temps auparavant, ne leur avait-il pas dit « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Indignés et suffoqués par tant d'insolence, ils lui dirent « Comment peux-tu dire qu'il serait relevé en 3 jours, alors qu'il a fallu 46 ans pour le construire ?» Car ils n'avaient pas compris qu'il parlait du temple de son corps. Ne l'avait-on pas aussi entendu déclarer « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et voici qu'à présent, il a une autre sortie, non moins étonnante, mais il devait bien l'avouer, assez impressionnante. « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Avec lui, ils allaient de surprise en surprise. Un peu plus tôt, dans ce même évangile, Jésus avait déjà parlé de son élévation dans le 3e chapitre. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus fait ici allusion à l'incident qui nous est rapporté dans le livre des Nombres, au chapitre 21. Dieu envoie contre les Israélites des serpents à la morsure venimeuse, à cause de l'ingratitude et du péché de ce peuple. C'est alors qu'au milieu des clameurs de désespoir, des cris d'agonie et de terreur, Moïse forge un serpent de bronze et l'élève sur un poteau. Tous ceux qui porteront les regards vers lui seront sauvés, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, avait dit Jésus. Par cette déclaration, il révèle que les hommes sont dans un état de perdition. Sans Christ, le monde périt. Il s'enlise dans le péché et l'indifférence. Nous avons tous été témoins du spectacle navrant d'une jeunesse qui se détruit et se dégrade par des excès de toutes sortes, dans la débauche et la corruption. Nous en éprouvons à la fois répulsion et pitié. Mais il y a aussi ceux qui périssent très respectablement, très confortablement. Ils sont plus nombreux encore que les débauchés. L'homme peut très bien avoir réussi dans la vie, avoir atteint une position sociale honorable et s'entourer de confort. Mais si cet homme n'a pas jeté un regard sur la croix, il a raté sa vie. Il est vide de toute valeur. En un mot, il périt avec son argent, son confort et sa respectabilité. Il périt parce qu'il n'y a aucun sauveur dans sa vie, parce qu'il n'y a aucune communion, aucune respiration entre lui et son Créateur. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de personne. Aux yeux de Dieu, il est déjà mort. Tout comme le serpent que Moïse éleva était un moyen de salut pour tous ceux qui tournaient le regard vers lui, de même, Jésus annonce qu'il est la source de salut, la seule, pour tous les hommes, par sa mort sur la croix. Moins d'une semaine après avoir prononcé cette prophétie, Jésus fut effectivement élevé au-dessus de la terre, sur une croix. Les évangiles nous rapportent cette scène très brièvement, mais néanmoins d'une manière très poignante. Luc nous fait assister au dernier moment. Il était déjà environ la 6e heure. Et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Cependant, il ne faut pas croire que Jésus n'ait fait allusion qu'à son élévation sur la croix. Il a aussi été élevé de la tombe. La résurrection du Christ, fondement même du christianisme, est attestée par plusieurs témoins. Jésus est en effet apparu à Marie de Magdala, puis à d'autres femmes qui étaient venues ce dimanche-là pour visiter le tombeau. Il apparut ensuite aux 10 apôtres assemblés à Jérusalem, le soir de ce même dimanche. Une semaine plus tard, c'est-à-dire le dimanche suivant, il apparaît de nouveau aux apôtres parmi lesquels se trouvait cette fois Thomas. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, bref, à tous ceux qui avaient été ses intimes durant son ministère, qui avaient été témoins de sa mort et qui maintenant le voyaient de nouveau vivant. Plus tard, devant les tribunaux, on les entendra dire avec véhémence, « Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Et ils iront presque tous à la mort au nom de celui qui est sorti victorieux de la mort. Enfin, et c'est surtout cela que Jésus entrevoyait, il a été enlevé au ciel et élevé à la droite de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Paul dit que Dieu l'a donné comme chef suprême à l'Église. Cette prophétie dont nous étudions la portée est donc surtout l'annonce du règne d'un Messie glorifié, dont l'œuvre se poursuivra du haut de son élévation. Les Juifs se représentaient que le Messie viendrait ici-bas pour prendre la place de David. Il serait leur roi. L'envahisseur romain serait chassé et Israël retrouverait sa gloire d'antan sur une terre transformée en Nouvel Éden. Mais Jésus n'entend pas régner de cette manière. Son élévation sur la croix est le prélude à son élévation sur le trône céleste, dont la croix est le chemin. Avec sa mort sur la croix, sa résurrection et son ascension, Jésus étendra désormais son influence, sa domination et son activité au monde entier, de sorte qu'il a pu dire, « Et moi, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Dépassez le nationalisme étroit des Juifs. Dépassez la prétention d'Israël à la faveur exclusive de Dieu. Paul pourra écrire triomphalement, « Il n'y a plus ni Juif, ni Grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Avant de monter au ciel pour prendre place sur le trône de son règne, Jésus va donner l'assaut au monde au moyen d'une puissance indestructible, sa parole. « Allez par tout le monde, dit-il à ses disciples, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » On ne peut pas venir à lui sans obéir à sa parole. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » C'est le critère par excellence de la vie chrétienne. Et c'est ainsi que dès le commencement, à travers l'histoire de l'Église, nous assistons à la conversion d'innombrables personnes qui viennent au Christ par le moyen de sa parole vivante et éternelle. Lors de la première prédication de l'Évangile à Jérusalem, quelques semaines après l'ascension du Christ, nous assistons au baptême de 3000 personnes. Puis ce sera la conversion d'un centurion romain nommé Corneille, celle du ministre des Finances de la reine d'Éthiopie, celle d'un gardien de prison en Macédoine, celle aussi d'un nommé Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Tout cela et des milliers d'autres à travers les siècles ont senti l'influence du Seigneur. Ils ont entendu sa voix dans l'Évangile et ont répondu à son invitation. Par la foi, la repentance et le baptême en son nom, ils sont devenus ses disciples, c'est-à-dire de simples chrétiens. Ainsi s'accomplit cette merveilleuse promesse. j'attirerai tous les hommes à moi. Lorsqu'on y réfléchit, comme tout cela paraît paradoxal en comparaison avec nos notions de grandeur, de puissance et de gloire. Car voici un homme qui est né dans un village obscur, d'un pays insignifiant. Il mène une vie cachée pendant 30 ans, 30 années où il ne sera que le fils du charpentier. Puis, il décide de prêcher en public, et il le fera pendant environ 3 ans. Jamais il n'a écrit de livre, il n'a jamais tenu d'emploi officiel, il n'a jamais possédé de maison, il n'a jamais eu de foyer, jamais il n'est allé à l'université, ni jamais fait de longs voyages de par le monde. Lorsque la vague de l'opinion populaire se tourne contre lui, ses amis l'abandonnent. L'un d'eux le trahit. On le crucifie entre deux voleurs. Ses bourreaux tirent au sort sa tunique qui fut son seul bien. Après sa mort, on l'enterre dans un sépulcre emprunté à un de ses amis. 19 siècles sont révolus. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est le centre vital de la race humaine et à la tête du progrès humain. Et il n'est certainement pas exagéré de dire que toutes les armées que le monde a jamais connues, tous les parlements qui ont jamais siégé et tous les rois qui ont jamais régné, tout cela ensemble, n'ont pas influencé l'homme sur la terre et la marche de la civilisation en général, comme l'a fait cet humble charpentier de Nazareth. Voulez-vous connaître le secret de cette vie? C'est lui-même qui nous le livre. Écoutez et ne l'oubliez jamais. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Celui qui croit en moi croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.